Chapitre 5. Saperlipopette, pourquoi allez-vous tous sur Vénus ? Demandai-je en faisant les gros yeux aux astrophages. L'image microscopique s'affichait sur un grand moniteur mural. Grâce au grossissement, chacune des trois petites cellules avait un diamètre d'une trentaine de centimètres. Je les fixais d'un regard intense en réfléchissant à leur motivation, mais Larry, Curly et Moe refusaient de se mettre à table. Je les avais baptisés, évidemment. C'est un truc d'enseignant. Qu'y a-t-il de si spécial sur Vénus ? Comment savez-vous où elle se trouve, d'ailleurs ? Je croisais les bras. Si les astrophages comprenaient le langage corporel, ils concluraient que je ne rigolais pas. À la NASA, il faut une pièce pleine de gens très intelligents pour trouver un moyen de rallier Vénus. Vous n'êtes que des organismes unicellulaires dépourvus de cerveau, et vous y arrivez. Cela faisait deux jours que Strat m'avait abandonné dans ce labo. Les types armés étaient toujours à la porte. Il y avait Steve, un gars sympa avec qui je parlais un peu. Quant à l'autre, je n'avais jamais entendu le son de sa voix. Je passais ma main dans mes cheveux gras. Je n'avais pas pris le temps de me doucher. Au moins, je n'étais plus obligé de porter une combinaison hazmat. Des scientifiques de Nairobi avaient pris le risque d'exposer leurs astrophages à l'atmosphère de la Terre. Rien ne s'était produit. Grâce à eux, des laboratoires dans le monde entier avaient poussé un soupir de soulagement et cessé de travailler dans des pièces emplies d'argon. Je me tournais vers une pile de feuilles de papier sur le bureau. La communauté scientifique carburait comme jamais, d'une manière singulière. Terminé le temps des articles publiés dans des revues à comité de lecture, la recherche sur les astrophages était une discipline libre où chacun publiait ses trouvailles sans attendre, sans preuve. Il y eut donc des malentendus et des erreurs, mais nous n'avions tout simplement pas le temps de faire les choses dans les règles. Strat me mettait le plus souvent dans la boucle, mais pas toujours, j'en étais certain. Qui savait quel truc bizarre elle faisait dans mon dos ? Son autorité semblait universelle. Une équipe de chercheurs belges avait démontré que les astrophages réagissaient parfois aux champs magnétiques. Il leur arrivait cependant de ne pas réagir du tout, et ce, quelle que soit l'intensité du champ. Les Belges étaient néanmoins parvenus, de façon très irrégulière, à diriger les astrophages en les soumettant à des champs magnétiques différents. Cette découverte nous serait-elle utile ? Aucune idée. À ce stade, le monde se contentait de compiler des données. Au Paraguay, un scientifique avait découvert que les fourmis étaient désorientées lorsqu'elles se trouvaient à quelques centimètres des astrophages. Cela nous servirait-il à quelque chose ? Non, bien sûr, mais c'était intéressant quand même. Plus sérieusement, une équipe de Perth, en Australie, avait sacrifié un de ses astrophages pour en étudier les organites. Elle avait découvert de l'ADN et des mitochondries. Dans d'autres circonstances, ça aurait été la découverte du siècle. Une forme de vie extraterrestre, c'était indiscutable, contenait de l'ADN et des mitochondries. Ainsi que, zut et flûte, de l'eau. Pour résumer, l'intérieur d'un astrophage n'était pas tellement différent de celui de n'importe quel organisme unicellulaire terrestre. La cellule utilisait de l'ATP, de la transcription d'ARN et tout un tas de choses familières. Certains chercheurs pensaient que l'astrophage était né sur Terre. D'autres postulaient que ces molécules spécifiques étaient nécessaires à l'apparition de toute vie et que l'astrophage était apparu loin de chez nous. Une autre faction, plus discrète ou moins audible, pensait que la vie n'était pas apparue sur Terre, que les humains et l'astrophage avaient un ancêtre commun. « Vous savez quoi ? » repris-je en m'adressant à mes trois captifs. « Si vous ne menaciez pas toute vie sur Terre, je vous trouverais super sympa. Vous êtes tellement mystérieux. Déjà, vous avez des mitochondries, » poursuivis-je en me penchant sur la table. « Ce qui signifie que vous utilisez l'ATP pour stocker l'énergie, exactement comme nous. Sauf que la lumière dont vous avez besoin pour vous déplacer requiert bien plus d'énergie que votre ATP ne peut en stocker. Ce qui signifie que vous disposez d'un autre moyen de la stocker. D'un moyen que nous ne comprenons pas. » Sur le moniteur mural, un des astrophages se déplaça légèrement vers la gauche. C'était assez fréquent. De temps à autre, sans raison apparente, il s'agitait. « Qu'est-ce qui vous fait bouger ? Et pourquoi bouger, d'ailleurs ? Comment ces mouvements erratiques peuvent-ils vous conduire jusqu'à Vénus ? Et pourquoi Vénus ?» Beaucoup de gens travaillaient sur les organes internes de l'astrophage, essayaient de comprendre comment il fonctionnait, analysaient son ADN. Tant mieux pour eux. Moi, je m'intéressais à son cycle de vie. Les organismes unicellulaires ne stockent pas un maximum d'énergie et ne volent pas dans l'espace sans raison. Vénus devait avoir quelque chose dont les astrophages avaient besoin. Autrement, ceux-ci resteraient sur le Soleil. Et quelque chose les incitait également à faire le voyage en sens inverse depuis la deuxième planète. Pour ce qui était du Soleil, c'était facile à comprendre. Il était leur source d'énergie. Pour la même raison, les plantes avaient des feuilles. Impossible d'être une forme de vie sans cette précieuse et chère énergie. C'était évident. Mais pourquoi Vénus ? Je réfléchis en jouant avec mon stylo. D'après l'Indian Space Research Organization, vous atteignez 0,92 fois la vitesse de la lumière. Ça vous embouche un coin ? Lançai-je en les pointant du doigt. Vous n'imaginiez pas que nous étions capables de déterminer votre vélocité, hein ? Ils ont analysé l'effet Doppler de la lumière que vous émettez, ce qui leur a également permis de découvrir que vous voliez dans les deux directions, du Soleil vers Vénus et de Vénus vers le Soleil. Je fronçai les sourcils. Vous devriez mourir en heurtant une atmosphère à cette vitesse. Et pourtant non. Parce que vous êtes capable d'encaisser n'importe quelle quantité d'énergie, affirmai-je en me tapotant le front avec l'articulation de l'index. D'accord. Donc, vous foncez dans l'atmosphère, mais vous ne vous réchauffez pas. Je veux bien, mais cela devrait vous faire ralentir. Donc vous vous retrouvez dans l'atmosphère supérieure de Vénus, et après, vous faites demi-tour et retournez vers le Soleil. Pourquoi ? Perdu dans mes pensées, je regardais l'écran pendant 10 bonnes minutes. Bien. Trêve de plaisanterie, repris-je finalement. Je veux savoir comment vous trouvez Vénus. Je me rendis dans le magasin de bricolage le plus proche pour acheter des planches de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur, des outils et quelques accessoires. Steve, le soldat, m'aida à tout porter à l'intérieur. Son copain taciturne ne leva pas le petit doigt. Durant les 6 heures qui suivirent, je construisis une petite chambre noire avec une étagère à l'intérieur. Elle était tout juste assez grande pour que je puisse y entrer. J'installai le microscope sur l'étagère. La porte était un panneau de contreplaqué refermable grâce à des vis. Je fis passer les câbles d'alimentation et vidéo par un petit trou que je colmatai avec du mastic pour ne pas laisser passer la lumière. Je plaçai une caméra IR au-dessus du microscope et scellai la porte. Le moniteur installé dans le laboratoire affichait la lumière infrarouge que voyait la caméra. C'était un décalage de fréquence en quelque sorte. Les longueurs d'onde IR les plus basses apparaissaient en rouge. Les bandes à plus haute énergie étaient orange, puis jaune, de plus en plus clair. Comme je m'y attendais, les astrophages apparaissaient sous la forme de petits globes rouges. À leur température constante de 96,415 degrés, ils émettaient des IR d'une longueur d'onde d'environ 7,8 microns. C'était la limite basse du spectre perceptible par la caméra, et cela confirmait que mon installation fonctionnait. Le rouge foncé, cependant, ne m'intéressait pas. Ce que je voulais voir, c'était un éclair jaune vif, à savoir la fréquence de Petrova que les astrophages émettaient lorsqu'ils se déplaçaient. Au moindre mouvement d'une des cellules, je verrai un éclair jaune caractéristique. D'éclair, il ne fut pas question toutefois. Rien ne se produisit, rien du tout. Normalement, un astrophage gigotait très légèrement toutes les quelques secondes, mais là, rien. On dirait que vous vous êtes calmés, les gars. La lumière. Le système de navigation, quelle que soit sa nature, était basé sur la lumière. À vrai dire, je m'en doutais. Dans l'espace, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Pas de son, pas d'odeur. C'était donc soit la lumière, soit la gravitation, soit l'électromagnétisme. Et la lumière est la plus facile des trois à détecter. Enfin, dans le cadre de l'évolution normale. Pour mon expérience suivante, je scotchais une pile de montres à une LED blanche. Évidemment, je commençais par inverser les câbles, aussi la LED ne s'alluma-t-elle pas. Une des règles de base de l'électronique, on se trompe toujours quand on installe une diode. J'ai changé donc les fils et la LED s'alluma. Ensuite, je collai le tout à la paroi de mon placard en m'assurant que les astrophages, sur leur lame, recevraient la lumière directement. Enfin, je refermai la porte. Du point de vue de l'échantillon, il y avait donc un grand noir avec une minuscule source de lumière blanche. Vénus devait ressembler à cela quand on tournait le dos au Soleil. Les astrophages ne réagirent pas. Mais alors pas du tout. Encore une fois, cela ne m'étonna pas outre mesure. Si je tournais le dos au Soleil à la recherche du point lumineux le plus intense, je verrais sans doute Mercure, non pas Vénus. Mercure est bien plus petite que Vénus, mais elle est aussi beaucoup plus proche, et donc plus lumineuse. « Pourquoi Vénus ?» me demandai-je, avant de penser à une question plus précise. « Comment parvenez-vous à identifier Vénus ? Pourquoi bougeait-il de façon si aléatoire ?» Ma théorie, toutes les quelques secondes, le hasard faisait qu'un astrophage pensait avoir repéré Vénus et se lançait donc dans sa direction. Et puis il se rendait compte de son erreur et s'arrêtait. La clé devait être la fréquence de la lumière. Mes petits copains ne bougeaient pas du tout dans le noir, mais le problème n'était pas la seule quantité de lumière. Autrement, ils se seraient dirigés vers la LED. Il devait donc y avoir un problème de fréquence. Les planètes ne se contentent pas de réfléchir la lumière. Elles en émettent. Tout émet de la lumière. La longueur d'onde de la lumière émise par un objet dépend de sa température. Les planètes ne font pas exception à la règle. Les astrophages cherchaient peut-être la signature IR de Vénus. Cette dernière n'était pas aussi lumineuse que Mercure, mais distincte, d'une couleur particulière. Google m'apprit que la température moyenne de Vénus était de 462 degrés. Je disposais d'un tiroir plein d'ampoules pour microscope et autres accessoires de laboratoire. J'attrapai une lampe que je reliais à une alimentation variable. Les ampoules incandescentes éclairent en chauffant leurs filaments pour qu'ils émettent de la lumière visible. Cela se produit autour de 2500 degrés. Je n'avais pas besoin de valeurs aussi grandes. 462 petits degrés me suffiraient. Je réglais la quantité d'électricité sortant de mon alimentation en surveillant ma caméra IR jusqu'à obtenir exactement la fréquence qui m'intéressait. Je déplaçais toute mon installation dans la chambre noire, puis j'allumais ma Vénus artificielle sans lâcher mes petits copains des yeux. Rien. Ces saletés ne bougèrent pas d'un poil. Qu'attendez-vous donc de moi ? Je retirai mes lunettes et les jetai par terre. Puis je pianotai nerveusement sur la table. Si j'étais astronome et que quelqu'un me montre une source de lumière, comment ferais-je pour déterminer s'il s'agit de Vénus ? Eh bien, je chercherai sa signature IR, me répondis-je. Mais ce n'est pas ce que font les astrophages. Admettons qu'on me montre une source de lumière et qu'on m'interdise d'étudier ses émissions IR pour déterminer sa température. Comment pourrais-je m'y prendre pour savoir s'il s'agit de Vénus ? La spectroscopie. La présence de dioxyde de carbone. Je haussai un sourcil. Quand la lumière frappe des molécules de gaz, les électrons s'agitent dans tous les sens avant de se calmer et de libérer l'énergie sous forme de lumière. La fréquence des photons émis dépend des molécules en question. Les astronomes utilisent cette technique depuis des décennies pour identifier des gaz à de très très longues distances. C'est la spectroscopie. L'atmosphère de Vénus est presque exclusivement constituée de dioxyde de carbone, et sa pression est 90 fois supérieure à celle de la Terre. La signature spectroscopique du CO2 y est prédominante. Mercure n'ayant pas du tout de dioxyde de carbone, le compétiteur le plus proche est la Terre. Comparé à Vénus, cependant, notre planète a une signature CO2 ridiculement faible. Peut-être les astrophages utilisaient-ils les spectres d'émission pour localiser Vénus. Nouveau plan. Le labo est doté d'un stock apparemment infini de filtres lumineux. Quelle que soit la fréquence, il y avait un filtre adapté. Je recherchais la signature spectrale du dioxyde de carbone. Ses longueurs d'onde pic étaient de 4,26 et 18,31 microns. Je trouvais les filtres idoines et leur construisis une petite boîte, à l'intérieur de laquelle je mis une ampoule blanche. Ma boîte émettrait donc la signature spectrale du dioxyde de carbone. Je la posai dans ma chambre noire et m'assis devant le moniteur. Larry, Curly et Mo étaient tranquilles sur leur lame de verre. Ils l'étaient depuis le début de la journée. J'allumai et attendis de les voir réagir. Les astrophages disparurent. Ils ne se contentèrent pas de serpenter en direction de la lumière. Ils filèrent pour de bon. Comme j'avais tout enregistré, évidemment, je me repassais la scène image par image. Les astrophages étaient là, puis ils n'étaient plus là. Ils se volatilisaient. La bonne nouvelle, les astrophages étaient attirés par la signature spectrale du dioxyde de carbone. La mauvaise, mes trois précieux astrophages ayant un diamètre de 10 microns avaient pris la poudre des scampettes, à des vélocités se rapprochant peut-être de la vitesse de la lumière. Et je n'avais aucune idée de leur position. Merde. Minuit. Les ténèbres partout. Mes deux gardiens furent remplacés par des types que je ne connaissais pas. Steve me manquait. J'avais scellé toutes les fenêtres du laboratoire avec du papier d'alu et du ruban adhésif, bouché les interstices autour des entrées et sorties avec du ruban isolant électrique. J'avais éteint tous les équipements qui possédaient un affichage quelconque ou des LED. J'avais même rangé ma montre dans un tiroir parce que les aiguilles étaient phosphorescentes. J'attendis que mes yeux s'habituent à l'obscurité totale. Si je distinguais une silhouette, qui ne soit pas uniquement dans ma tête, je cherchais la source de lumière qui me permettait de la voir et l'obstruais avec de l'adhésif. Bientôt, j'atteignis un niveau d'obscurité tel que je n'y voyais plus rien. Les yeux ouverts ou fermés, c'était exactement la même chose. L'étape suivante consista en l'élaboration de lunettes IR. Il y avait beaucoup de choses dans ce laboratoire, mais pas de lunettes infrarouges. J'avais songé à demander à Steve, le soldat, de m'en procurer. J'aurais sans doute pu appeler Strat, et elle se serait arrangée pour que le président du Pérou me les livre en personne. J'étais pressé, toutefois. Mes lunettes seraient donc simplement constituées de l'écran LCD de ma caméra IR avec un peu de scotch autour. Je les collais contre mon visage et ajoutais encore un peu de ruban adhésif. Et encore beaucoup. Je devais être ridicule, mais personne n'était là pour me voir. J'allumais la caméra et examinais le labo. Les signatures thermiques ne manquaient pas. Les murs étaient toujours chauds du soleil de la journée. Tout ce qui était électrique luisait un peu, et mon corps brillait comme un phare. Je réglai donc la plage de fréquence pour voir des objets bien plus chauds, tout ce qui dépassait 90 degrés, pour être plus précis. Je me glissais dans ma chambre noire de fortune et regardais la boîte lumineuse que j'avais utilisée pour l'émission spectrale du CO2. Les astrophages n'ayant qu'un diamètre de 10 microns, je n'avais aucune chance de les voir avec ma caméra, ou même avec mes propres yeux. Mes extraterrestres, cependant, étaient très chauds, et le restaient. Quand ils ne bougeaient pas, ils passaient leur temps à réchauffer lentement leur environnement. C'était mon espoir. Je ne fus pas déçu. Je vis immédiatement un disque de lumière sur un des filtres ronds. « Dieu merci !» soufflai-je. Il était à peine visible, mais il était bien là. Le disque mesurait environ 3 mm de diamètre, et s'estompait à mesure qu'on s'éloignait de son centre. L'astrophage avait chauffé le plastique pendant des heures. J'examinais successivement les deux carrés de plastique et repérais rapidement une deuxième tache. Mon expérience avait bien mieux fonctionné que prévu. Ils s'étaient précipités vers ce qu'ils avaient pris pour Vénus, mais s'étaient heurtés au filtre. Ils continueraient sans doute à pousser jusqu'à ce que j'éteigne la lumière. Si je confirmais la présence des trois astrophages sur les filtres, je mettrais le tout dans un sachet et finirais par les retrouver avec une pipette et mon microscope. Le troisième était bien là. Toute la bande est réunie. Je fourrais la main dans ma poche à la recherche d'un sachet refermable dans lequel je comptais mettre les filtres, en prenant d'extrêmes précautions, lorsque je repérai soudain un quatrième astrophage. Le bougre semblait vivre sa vie. Une quatrième cellule, là, pas très loin des trois autres, sur les filtres. Nom de... Cela faisait des semaines que j'examinais ces machins. Il était rigoureusement impossible que j'en aie raté un. Il n'y avait qu'une explication possible. Un des astrophages s'était divisé. J'avais accidentellement provoqué la reproduction des astrophages. Je fixais le regard sur la quatrième cellule pendant une minute entière, en encaissant l'énormité de ce qui venait de se produire. En élevant des astrophages, on disposerait d'une quantité illimitée d'échantillons à étudier, à tuer, à triturer, à dépecer, et j'en passe. Cela changerait tout. « Salut, Shemp !» dis-je. Je passais les deux jours suivants à étudier ce comportement, dormant au labo pour gagner du temps. Steve, le soldat, m'apporta mon petit déjeuner. Un mec sympa, ce Steve. J'aurais dû partager ma trouvaille avec la communauté scientifique, mais je voulais être sûr. L'évaluation des travaux sur les astrophages par ses pairs était peut-être mise en suspens, mais je pouvais faire ce boulot de vérification moi-même. Ce serait mieux que rien. Le premier truc qui me turlupinait, les émissions spectrales du dioxyde de carbone sont de 4,26 et 18,31 microns. Toutefois, l'astrophage n'avait un diamètre que de 10 microns, ce qui signifiait qu'il ne pouvait interagir avec une lumière d'une longueur d'onde plus grande. Dans ces conditions, comment pouvait-il ne serait-ce que voir les émissions de 18,31 microns ? Je répétais mon expérience initiale en n'utilisant que le filtre de 18,31 microns et j'obtins un résultat inattendu. Étrange. Premièrement, deux des astrophages foncèrent vers le filtre. Ils virent la lumière et se précipitèrent. Mais comment ? Il devrait être impossible pour les astrophages d'interagir avec une longueur d'onde si grande. Je veux dire, littéralement impossible. La lumière est une chose étrange. Sa longueur d'onde définit les objets avec lesquels elle peut ou ne peut pas interagir. Tout ce qui est plus petit que sa longueur d'onde n'existe pas fonctionnellement pour le photon. Voilà pourquoi il y a une grille sur la vitre d'un four à micro-ondes. Les trous de la grille sont trop petits pour laisser passer les micro-ondes. La lumière visible, en revanche, la traverse sans problème, car sa longueur d'onde est bien plus courte. Il est donc possible d'assister à la cuisson de son plat sans subir celle de son visage. L'astrophage mesure moins de 18,31 microns, mais cela ne l'empêche pas d'absorber la lumière de cette fréquence. Comment ? Mais quelque chose d'encore plus bizarre se produisit. Deux astrophages foncèrent vers le filtre, mais les deux autres ne bougèrent pas. Pas du tout intéressés, ils restèrent pépères sur la lame. Peut-être n'interagissaient-ils pas avec la longueur d'onde plus grande ? Je fis une expérience supplémentaire. Je les éclairai une nouvelle fois avec la lumière de 4,26 microns et j'obtins le même résultat. Les deux mêmes se précipitèrent vers la lumière, tandis que leurs deux congénères ne réagirent pas. On y était. Je n'en étais pas sûr à 100%, mais je pensais avoir découvert le cycle de vie tout entier de l'astrophage. Les pièces s'assemblèrent d'elles-mêmes dans mon cerveau. Les deux astrophages immobiles ne voulaient plus se rendre sur Vénus. Il voulait retourner vers le Soleil. Pourquoi ? Parce que l'un d'entre eux venait de se diviser pour créer l'autre. Les astrophages restaient à la surface du Soleil pour accumuler de l'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie, ils la stockaient d'une manière que nous ne comprenions pas. Lorsqu'ils en avaient assez, ils migraient vers Vénus pour se reproduire. L'énergie stockée leur permettait de voler, la lumière infrarouge leur servant de propulseur. Beaucoup d'espèces migrent pour se reproduire. Pourquoi les astrophages seraient-ils différents ? Les Australiens avaient déjà démontré que l'intérieur des astrophages différait peu de celui des formes de vie terriennes. Ils avaient besoin de carbone et d'oxygène comme composants des protéines complexes nécessaires pour créer de l'ADN, des mitochondries et toutes ces choses amusantes que l'on trouvait dans une cellule. S'il y a plein d'azote sur le Soleil, les autres éléments n'y sont pas présents. Les astrophages migraient donc vers la source de dioxyde de carbone la plus proche, Vénus. Pour commencer, Ils suivent la direction du champ magnétique, s'éloignant directement du pôle nord solaire. Ils n'ont pas le choix, autrement la lumière du soleil les empêcherait de repérer Vénus. Comme ils montent à la verticale du pôle nord solaire, ils profitent d'une vue imprenable sur la totalité du chemin orbital de Vénus, qui n'est jamais masqué par le soleil lui-même depuis cette position. Ah, cela explique également pourquoi les astrophages ne réagissent pas systématiquement au champ magnétique. Ils ne s'en soucient qu'au tout début de leur voyage. Après quoi, ils cherchent la signature spectrale du CO2 de Vénus. Enfin, ils ne la cherchent pas vraiment. Il s'agit plus probablement d'une réaction à des stimuli, les longueurs d'onde de 4,26 et 18,31 microns. Bref, lorsqu'ils voient Vénus, ils lui foncent dessus. La route qu'ils prennent, tout droit depuis la verticale du pôle nord solaire, puis un virage vers Vénus, correspond à la ligne de Petrova. Nos héroïques astrophages atteignent l'atmosphère supérieure de Vénus, collectent le CO2 dont ils ont besoin et se reproduisent enfin. Après cela, la cellule mère et son enfant retournent sur le Soleil et le cycle recommence. C'est très simple en réalité. Trouver de l'énergie, des ressources et produire des copies. Sur Terre, la vie fait exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle deux de mes faire-valoir ne se sont pas jetés vers la source de lumière. Comment les astrophages trouvent-ils le Soleil? Mon hypothèse, chercher le truc le plus lumineux du voisinage et foncer. Je séparais Moe et Shemp, les chercheurs de Soleil, de Larry et Curly, les chercheurs de Vénus. Je mis Larry et Curly sur une nouvelle lame et les remisais dans une boîte à échantillons opaques. Puis je préparais une expérience pour Moe et Shemp dans la chambre noire. Cette fois-ci, j'allumais une puissante ampoule incandescente dans la boîte. Je m'attendais à ce qu'elle attire mes astrophages, mais cela ne se produisit pas. Sans doute l'ampoule n'était-elle pas assez lumineuse. Je me rendis dans une boutique de photos du centre, il y a beaucoup d'amateurs de photographie à San Francisco, et achetai le flash le plus gros et le plus puissant disponible. Je remplaçai l'ampoule par le flash et répétai l'expérience. Moe et Shemp mordirent à l'hameçon. À ce stade, je dus m'asseoir pour souffler. J'aurais dû faire une sieste. Je n'avais pas dormi depuis 36 heures. Tout cela a été bien trop excitant. J'attrapai mon portable et composai le numéro de Strat. Elle répondit au milieu de la première sonnerie.
« Dr. Grace, vous avez trouvé quelque chose ?»«
Ouais. » J'ai compris comment les astrophages se reproduisent, comment ils perpétuent leur espèce. Le silence, pendant une seconde.
Vous avez fait se reproduire des astrophages?
Oui.
Sans en perdre?
J'avais 3 cellules, maintenant j'en ai 4. Ils sont tous vivants et en bonne forme. Encore une seconde de silence.
Ne bougez pas.
Elle raccrocha. Mouais. Fis-je en rangeant mon téléphone dans la poche de ma blouse. Elle est en route, j'imagine.
Dr. Grace!
Lança subitement Steve, le soldat, en accourant. Oui? Qu'est-ce qui se passe?
Venez vite, je vous prie.
D'accord. Laissez-moi juste le temps de ranger mes échantillons.
Des techniciens de laboratoire vont s'occuper de tout ça. Vous devez me suivre immédiatement.
D'accord. Les 12 heures qui suivirent furent spécial. Steve, le soldat, me conduisit jusqu'au terrain de sport d'un lycée où s'était déjà posé un hélicoptère des US Marines. Sans m'adresser la parole, on me fit monter dans l'engin qui décolla aussitôt. J'essayais de ne pas regarder en bas. L'hélico nous emmena à la base aérienne Travis de l'US Air Force, à 90 km au nord de la ville. Les Marines se posaient-ils souvent dans les bases de l'US Air Force? Je ne connaissais pas grand-chose aux militaires, mais cela me semblait bizarre. Je trouvais également étrange qu'on envoie des Marines pour me dispenser de rouler 2 heures dans le trafic urbain. Une Jeep m'attendait sur le tarmac, et à côté, un aviateur. L'homme se présenta. Je le jure, mais je ne retins pas son nom. Puis il me conduisit jusqu'à un jet. Non pas un avion privé, un Learjet ou un truc comme cela. Je parle d'un chasseur. De quel type? Je ne saurais le dire. Comme je l'ai avoué plus tôt, je ne connais rien à la chose militaire. Mon guide m'invita à gravir l'échelle et à m'asseoir derrière le pilote. Il me donna une pilule et un gobelet en papier plein d'eau. « Prenez ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça vous empêchera de vomir et de salir notre beau cockpit. »«
D'accord, »
acquiesçai-je en obtempérant. « Et ça vous aidera à dormir. »«
Hein ?»
Et puis il s'en fut, et des gens vinrent retirer l'échelle. Le pilote ne m'adressa pas la parole. 10 minutes plus tard, nous décollâmes comme une chauve-souris jaillissant de l'enfer. Jamais je n'avais ressenti une accélération pareille. La pilule fonctionna. J'aurais vomi, c'est sûr.
« Où est-ce qu'on va ? »
demandai-je dans mon micro.
« Désolé, monsieur, mais je ne suis pas autorisé à vous parler. »«
Ça va être un voyage ennuyeux, alors ?»«
Ils le sont souvent. »
Je ne sais pas quand je me suis endormi. Quelques minutes seulement après le décollage. Après 36 heures de travail et cette pilule, je sombrais dans le pays des rêves en dépit du vacarme produit par l'avion de chasse. Je me réveillais en sursaut dans le noir. Nous nous étions posés.
« Bienvenue à Hawaï, monsieur. »
dit le pilote.
« Hawaï ? Pourquoi suis-je à Hawaï ? » ?»«
Je ne dispose pas de cette information. »
L'avion roula sur une piste secondaire, une voie de garage ou que sais-je, et du personnel au sol vint installer une échelle. Je n'étais pas encore descendu de l'appareil lorsque j'entendis une voix dans mon dos.
« Dr. Grace, par ici, je vous prie. »
L'homme portait un uniforme de l'US Navy.
« Où diable nous trouvons-nous ? »
« Base navale de Pearl Harbor, »
répondit l'officier.
« Mais pas pour longtemps. Suivez-moi, je vous prie. »
« Bien sûr. Pourquoi pas ?» On me fit monter dans un autre chasseur, avec un autre pilote peu bavard. La différence, c'est qu'il s'agissait d'un appareil de la Navy, et non de l'Air Force. Le vol dura longtemps, très longtemps. Je perdis le compte des heures. À quoi bon compter, d'ailleurs ? Après un temps indéterminé, nous nous posâmes, et ce n'est pas du tout une plaisanterie, sur un porte-avions. Un vrai de vrai. L'instant d'après, je me retrouvais comme un idiot sur le pont. On me donna un casque anti-bruit, un manteau, et on me poussa vers une hélisurface. Un hélicoptère de la marine m'y attendait.
« Ce voyage s'arrêtera-t-il, un jour ?»
On ne me répondit pas et on m'aida à me sangler. L'appareil décolla immédiatement. Cette fois, le vol ne dura pas très longtemps, peut-être une heure.
« Ça devrait être intéressant, »
dit enfin le pilote dont j'entendais la voix pour la première fois. Nous entamâmes notre descente et le train d'atterrissage se déploya. Je regardais en bas en plissant les yeux. Il y avait quelque chose de bizarre.
Qu'est-ce que...
Ah oui, un grand drapeau chinois flottait sur un mât.
Est-ce que c'est un porte-avions chinois ?
Manquis-je.
Affirmatif, monsieur.
Nous volons donc dans un hélicoptère de l'US Navy et nous sommes sur le point de nous poser sur un porte-avions chinois.
Oui, monsieur.
Je vois. Nous nous posâmes doucement sur l'hélisurface sous le regard de quelques marins chinois intéressés. Personne ne vint s'occuper de l'appareil. Mon pilote toisa les marins par la vitre de sa portière. Ceux-ci lui rendirent son regard. Dès que j'eus mis un pied sur la piste, l'appareil décolla, me laissant entre les mains de la marine chinoise. Un homme m'approcha et me fit signe de le suivre. On ne me parla pas anglais, mais je compris ce qu'on attendait de moi. Il me précéda jusqu'à une structure en tour, ouvrit une porte et s'y engouffra. À l'intérieur, nous empruntâmes des couloirs et des passerelles, nous traversâmes des salles dont je ne comprenais pas l'utilité. Les marins que nous croisâmes me détaillèrent avec intérêt. Mon guide s'arrêta devant une porte sur laquelle étaient peints des caractères chinois. Il l'ouvrit et m'engagea à entrer. J'obtempérai et il claqua la porte dans mon dos. Sympa, le guide. Il s'agissait apparemment d'une salle de conférence pour officiers. C'est en tout cas ce que je conclus à la vue de la grande table et des quelques 15 personnes assises autour d'elle. Tout le monde me regardait. Il y avait des blancs, des noirs, des asiatiques. Certains portaient une blouse blanche, d'autres un costume. Strat, évidemment, était installé au haut bout de la table.
« Dr. Grace, comment s'est passé votre voyage ?»«
Mon voyage ?
On m'a traîné sur la moitié de cette saleté de planète sans me demander mon avis et...
Je vous posais la question par politesse. Je me fiche de savoir comment s'est passé votre voyage.
Elle se leva et s'adressa à l'assemblée.
Mesdames et messieurs, je vous présente le docteur Ryland Grace, des États-Unis d'Amérique. Il a découvert comment se reproduisaient les astrophages.
Plusieurs personnes en eurent le souffle coupé. Un homme se leva comme un ressort et parla avec un accent allemand à couper au couteau.
« Vous êtes sérieuse ?»«
Strat, warum haben Sie nur Englisch ?»
l'interrompit-elle.
« Pourquoi n'entendons-nous parler de cela que maintenant ?»
protesta l'Allemand.
« J'avais d'abord besoin d'une confirmation. Pendant que le Dr. Grace était en route, j'ai envoyé des techniciens démonter son laboratoire. Ils ont récupéré 4 astrophages vivants, alors que je ne lui en avais laissé que 3. »
Un homme âgé en blouse de scientifique parla japonais d'une voix douce et calme. À côté de lui, un jeune japonais en costume anthracite traduisit.
« Le docteur Matsuka aimerait vous demander respectueusement de détailler le processus. »
Strat s'écarta de la table et me fit signe de prendre place.
« Docteur, asseyez-vous. Nous sommes tout ouïes. »
« Attendez, qui sont ces gens? Pourquoi suis-je sur un porte-avions chinois? Vous n'avez jamais entendu parler de Skype ?»«
Ceci est un groupe international de scientifiques de haut niveau et de cadres politiques que j'ai réunis pour en faire le fer de lance du projet Dernière Chance. »
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce serait trop long à expliquer. Tout le monde ici est pressé d'apprendre ce que vous avez découvert. Commençons par là, s'il vous plaît.
Je traînais maladroitement les pieds jusqu'à la chaise et m'assis lourdement sous le regard de l'assemblée. Je leur dis tout. Je leur parlais de ma chambre noire en bois. Je décrivis en détail mes expériences. Je leur expliquai ma démarche. Puis je leur fis part de mes conclusions. J'exposai mon hypothèse sur le cycle de vie des astrophages, le pourquoi du comment. Les scientifiques et politicards posèrent quelques questions, mais ils prirent surtout des notes et écoutèrent. Plusieurs d'entre eux étaient accompagnés d'interprètes, qui leur murmuraient à l'oreille.
« Voilà, vous savez à peu près tout. »
« Bon, mon hypothèse n'a pas été rigoureusement testée, mais c'est assez simple en fait. » L'Allemand leva la main avant de prendre la parole.
« Serait-il possible d'élever des astrophages à grande échelle ?» demanda-t-il.
Tout le monde se pencha un peu en avant pour écouter ma réponse. Apparemment, c'était une question importante que tout le monde se posait. J'étais un peu pris de court, je l'avoue. Même Strat semblait plus intéressé qu'à son habitude.
« Alors ?» « Veuillez répondre au ministre Voigt, je vous prie. »«
Bien sûr. Eh bien, pourquoi pas, oui. »«
Comment s'y prendrait-on ?»«
On pourrait assembler un grand conduit en forme de coude en céramique, on le remplirait de dioxyde de carbone, il faudrait chauffer énormément une extrémité et y mettre une puissante source de lumière, l'entourer d'une bobine magnétique aussi pour simuler le champ magnétique du soleil. De l'autre côté, on mettrait un émetteur de lumière IR réglé sur 4,26 et 18,31 microns. Il faudrait bien sûr que l'intérieur du conduit soit aussi sombre que possible. Ça devrait fonctionner.
Comment ça ? S'enquit Strat.
Les astrophages accumuleraient de l'énergie dans le Soleil, puis ils suivraient le champ magnétique jusqu'au coude du conduit. Là, ils verraient les IR de l'autre côté et s'y précipiteraient. Grâce à la lumière et au dioxyde de carbone, ils se reproduiraient. Après quoi, la cellule mère et sa fille retourneraient vers le soleil. Voilà.
Un type à l'allure de politicien et à l'accent africain demanda.
« Combien d'astrophages pourrait-on produire de cette façon ? » ?»«
Il y a une période de duplication, comme avec des bactéries ou des algues. J'ignore combien de temps ça prend, mais vu que le vrai soleil brille de moins en moins, ça doit être assez rapide. » Une femme en blouse blanche reposa le téléphone dans lequel elle parlait et lança avec un accent chinois
« Nos scientifiques ont reproduit vos résultats. »
« Comment avez-vous pu ?»
protesta Voigt en fronçant les sourcils.
« Il vient tout juste de nous décrire le processus. »
« Des espions, sans doute, » répondit Strat.
« Comment osez-vous contourner ?» s'emporta Voigt.
« Calmez-vous, » l'interrompit Strat.
« Nous n'avons plus le temps pour ça. Vous avez d'autres informations à partager ?
Oui, nous estimons le temps de doublement à 8 jours dans des conditions optimales.
Qu'est-ce que ça signifie, sans qui le diplomate africain? Combien pourrions-nous en produire?
Eh bien, j'ouvris l'application calculatrice de mon téléphone. Si on travaille avec les 150 astrophages que nous avons à notre disposition, en un an, nous aurons dans les 173 000 kilos d'astrophages.
Ces astrophages auraient-ils une densité énergétique maximale? Seraient-ils prêts à se reproduire?
Donc, vous voulez... On pourrait appeler ça des astrophages enrichis.
Oui, m'approuva-t-il. Des astrophages enrichis. Nous voulons des astrophages qui contiennent un maximum d'énergie.
C'est sans doute faisable, dis-je.
D'abord, produire tous les astrophages dont on a besoin, puis les exposer à énormément de chaleur, mais ne pas leur montrer les lignes spectrales du dioxyde de carbone. Ils accumuleraient l'énergie et attendraient de trouver un endroit contenant du CO2.
Et si nous avions besoin de 2 millions de kilogrammes d'astrophages enrichis, demanda le diplomate.
Ils se dédoublent tous les 8 jours. Donc il faudrait répéter le processus 4 fois supplémentaires pour atteindre 2 millions de kilos. 4 fois, ça fait environ 1 mois de plus.
Alors nous avons peut-être une chance, affirma une femme à l'accent américain en se penchant en avant, les coudes sur la table, les doigts formant un triangle.
Une chance minime, tempéra Voigt.
Il y a de l'espoir, dit l'interprète japonais, qui parlait probablement à la place du docteur Matsuka.
Nous avons besoin de discuter entre nous, conclut Strat. Allez vous reposer. Le marin dehors vous montrera votre lit.
Mais je veux savoir ce qu'est ce projet dernière chance.
Oh, vous allez en entendre parler, croyez-moi.
Je dormis 14 heures d'affilée. Les porte-avions sont des engins extraordinaires, mais ce ne sont pas des palaces. Les Chinois m'avaient donné une couche propre dans un dortoir pour officiers. Je ne pouvais pas me plaindre. S'il l'avait fallu, j'aurais pu dormir sur la piste de décollage. Lorsque je me réveillais, j'eus une sensation bizarre sur le front. Je portais la main à ma tête et y trouvais un post-it. On m'avait collé un post-it sur le front pendant que je dormais. Je le décollais et lus ce qu'il y avait dessus. « Vous trouverez des vêtements propres et un nécessaire de toilette dans un sac sous le lit. Quand vous serez prêt, montrez ce mot écrit en chinois à un marin. Strat. »
« Qu'est-ce qu'elle est casse-bonbon, celle-là » marmonnai-je.
Je titubais hors de mon lit. Quelques officiers passèrent devant moi en me regardant du coin de l'œil, mais la plupart ne firent pas attention à moi. Comme promis, je trouvais dans le sac des vêtements, une brosse à dents, du dentifrice et du savon. Je jetai un coup d'œil alentour et avisai la porte ouverte d'un vestiaire. J'allai aux toilettes, enfin aux tinettes, puisque j'étais dans un navire, puis je pris une douche avec 3 autres gars. Je me séchai et enfilai la combinaison grenouillère que Strat m'avait laissée. Elle était jaune vif, ornée de caractères chinois rouges dans le dos et d'une large bande rouge sur la jambe gauche. J'imagine qu'il s'agissait de montrer à tout le monde que j'étais un civil étranger et que certains endroits m'étaient interdits. J'arrêtai un marin de passage et lui montrai le post-it. Il hocha la tête et me signifia de le suivre. Il me guida dans un dédale de passages alambiqués et identiques jusqu'à la salle que j'avais vue la veille. J'y découvris Strat et certains de ses coéquipiers, une partie du gang de la veille. Le ministre Voigt, la scientifique chinoise, elle s'appelait Si, je crois, et un gars en uniforme russe. Ce dernier était là la veille, mais n'avait pas pris la parole. Ils étaient tous extrêmement concentrés, et la table était jonchée de documents. Je les entendais échanger en marmonnant. J'ignorais tout de l'organisation de cette petite assemblée, mais Strat paraissait diriger les opérations. Elle leva la tête en m'entendant entrer.
« Ah, Dr. Grace, vous avez l'air en meilleure forme que la dernière fois. Vous avez faim sans doute, » ajouta-t-elle en me montrant le meuble à sa gauche.
C'était le moins qu'on puisse dire. Du riz, des petits pains farcis cuits à la vapeur, des beignets et une thermos de café.
Je me précipitai vers le buffet et me servis largement. J'étais affamé. Je m'attablai donc avec une assiette pleine et un mug de café.
Bon, commençai-je en avalant une cuillerée de riz. Vous allez me dire ce que nous faisons sur un porte-avions chinois maintenant ?
J'avais besoin d'un porte-avions. Les Chinois m'en ont donné un.
Enfin, ils me l'ont prêté. Je sirotai mon café. Fut un temps où ce genre de choses m'aurait surpris, mais plus maintenant.
Les vols commerciaux prennent du temps et parfois du retard,
expliqua-t-elle.
Les appareils militaires volent quand ils le veulent et sont supersoniques. Et j'ai besoin de pouvoir réunir sans attendre dans la même pièce des experts venus des quatre coins du monde.
Madame Stratt sait se montrer persuasive, remarqua le ministre Voigt. La faute à ceux qui lui ont donné toute cette autorité, dis-je en avalant une nouvelle bouchée. Je fais partie de ceux qui ont pris cette décision, gloussa Voigt. Je suis le ministre des Affaires étrangères allemand, l'équivalent de votre secrétaire d'État.
Je ralentis ma mastication.
Wow, parvins-je à répondre avant de déglutir. Vous êtes la personne la plus haut placée que j'ai jamais rencontrée.
Non, rétorqua-t-il en désignant Stratt du doigt.
Voici ce qui a conduit au lancement du projet Dernière Chance, intervint celle-ci en faisant glisser une feuille de papier sur la table.
Vous lui montrez ? S'étonna Voigt. Maintenant, sans attendre l'autorisation.
Docteur Ryland Grace, commença Stratt en me posant la main sur l'épaule. Je vous autorise officiellement à accéder à toutes les informations relatives au projet Dernière Chance.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, protesta Voigt. Il y a des procédures, des enquêtes de sécurité.
Pas le temps, il est trop tard. Vous m'avez engagé pour ça, pour aller vite.
Elle se tourna vers moi et tapota la feuille.
Ces données ont été réunies par des astronomes amateurs du monde entier. Elles montrent quelque chose de très important.
Je visais des colonnes de chiffres, et des noms au-dessus des colonnes, Alpha du Centaure, Sirius, 8N726-8, etc.
Des étoiles ? Demandai-je. Ce sont des étoiles de notre voisinage ?
Attendez, vous avez parlé d'astronomes amateurs ? Vous dites au ministre des Affaires étrangères allemand ce qu'il doit faire, et vous ne pouvez pas engager des astronomes professionnels.
Bien sûr que si, mais vous avez sous les yeux des données historiques collectées sur plusieurs années. Les astronomes professionnels n'étudient pas les étoiles voisines. Seuls les amateurs continuent de noter ce genre de trucs. Ils sont comme ces passionnés des trains. C'est un hobby pour eux. Ce qui n'empêche pas certains de posséder pour des dizaines de milliers de dollars d'équipement.
D'accord. Qu'est-ce que c'est ?
Manquis-je en prenant le document.
La luminosité. On a compilé des milliers de chiffres fournis par ces amateurs qu'on a ajustés en fonction de la météo et des conditions de visibilité. On a eu recours à des superordinateurs. Je résume, notre soleil n'est pas la seule étoile à s'assombrir.
C'est vrai ?
Oh, c'est logique, remarquez.
Les astrophages peuvent voyager à 0,92 fois la vitesse de la lumière. S'ils arrivent à rester en vie en se mettant en pause suffisamment longtemps, ils peuvent très bien infester les étoiles voisines.
Comme des spores, des champignons.
Ils se propagent d'étoile en étoile. C'est en effet notre théorie, acquiesça Stratt. Nous avons pu remonter des décennies en arrière. Les chiffres ne sont pas forcément très fiables, mais la tendance est claire. La NSA a rétrocalculé que...
Attendez, la NSA, l'Agence de Sécurité Nationale ?
Elle possède parmi les meilleurs superordinateurs du monde. J'avais besoin de leurs calculateurs et de leurs ingénieurs pour étudier différents scénarios de propagation dans la galaxie. Bref, ces étoiles perdent en luminosité depuis des décennies. Elles s'assombrissent à un rythme exponentiel, comme le Soleil.
Elle me tendit une autre feuille de papier. J'y avisais des points reliés par des segments. Au-dessus de chaque point, il y avait le nom d'une étoile.
Nous avons dû tenir compte de la vitesse de la lumière, de la distance qui nous sépare de ces étoiles en train de s'assombrir, et de tout un tas d'autres choses, mais nous avons fini par mettre en évidence le processus d'infestation et de propagation. Nous savons quand chaque étoile a été infestée et par quelle étoile voisine. Le Soleil, par exemple, a été infesté par une étoile appelée WISE 0855-0714. Et celle-ci a été infestée par Sirius, qui avait elle-même été infestée par Epsilon Eridani. Et nous pouvons remonter bien plus loin en arrière.
Fis-je en étudiant le graphique. Wise 0855-0714 a également contaminé Wolf 359, Laland 2185 et Ross 128.
Oui, une étoile finit par contaminer toutes ses voisines. À en croire nos données, la portée maximale des astrophages serait légèrement inférieure à 8 années-lumière. Toute étoile se trouvant dans ce rayon finit immanquablement par être infestée à partir de sa voisine malade.
Pourquoi 8 années-lumière ? Demandai-je en regardant les données. Pourquoi pas plus ? Ou moins ?
Nous supposons que les astrophages ne peuvent pas survivre indéfiniment hors d'une étoile et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin de leur vivant.
Ce serait logique d'un point de vue évolutionniste. La plupart des étoiles ont au moins une voisine dans un rayon de 8 années-lumière. Les astrophages n'avaient pas besoin d'aller plus loin, en vérité.
Sans doute.
Personne n'avait remarqué que ces étoiles s'assombrissaient.
Apparemment, les étoiles ne perdent jamais plus de 10% de leur luminosité. Nous ne savons pas pourquoi. Ce n'est pas évident à vue d'œil, mais...
Si notre Soleil s'assombrit de 10%, nous sommes tous morts, dis-je.
Voilà.
Si se pencha au-dessus de la table. Elle avait une posture très distinguée.
Madame Strat ne vous a pas encore révélé la partie la plus importante du projet.
Le Russe hocha la tête. C'était la première fois que je le voyais bouger.
Vous avez entendu parler de Tau Ceti ?
Poursuivit-il. Je sais que c'est une étoile, répondis-je. C'est à environ 12 années-lumière, je crois.
11,9,
me corrigea-t-il.
Très bien. La plupart des gens l'ignorent.
J'enseigne les sciences au collège. C'est le genre de truc qu'on évoque. Si et le Russe échangèrent un regard étonné. Puis ils se tournèrent vers Strat, qui soutint leur regard et finit par les faire flancher.
Le Dr. Grace a d'autres compétences.
Si se reprit rapidement, même si elle n'avait pas vraiment perdu sa contenance.
Bref, ce que je voulais dire, c'est que Tau Ceti se trouve dans l'amas d'étoiles infestées. Elle en est même le cœur.
D'accord, dis-je. Je suppose qu'elle a autre chose de spécial.
Elle n'est pas infestée,
répondit Si.
Toutes les étoiles qui l'entourent le sont. Il y a 2 étoiles très infestées à moins de 8 années-lumière, et pourtant, Tau Ceti est intacte.
Pourquoi ?
C'est ce que nous aimerions savoir,
grommela Strat en rangeant ses documents.
Voilà pourquoi nous allons envoyer un vaisseau là-bas.
Quel vaisseau ? Me moquai-je. On ne peut pas faire un vaisseau interstellaire comme ça. On n'a pas la technologie. On en est même loin. Alors le Russe prit la parole pour la première fois.
Mon cher ami, vous vous trompez.
Le docteur Komorov est...
commença Strat en désignant l'homme.
Je vous en prie, appelez-moi Dimitri.
Dimitri est à la tête de l'équipe qui étudie les astrophages dans la Fédération de Russie.
Très heureux de vous rencontrer, me dit-il, et de vous apprendre que nous sommes en mesure de faire un voyage interstellaire.
Mais non,
protestai-je,
à moins que vous ayez capturé un vaisseau spatial extraterrestre.
En quelque sorte. Nous avons de nombreux vaisseaux extraterrestres. Nous les appelons astrophages. Vous comprenez? Mon laboratoire étudie la manière dont les astrophages gèrent leur énergie. C'est très intéressant.
Soudain, j'oubliais tout en dehors de l'homme assis en face de moi.
Mon Dieu, dites-moi que vous savez où passe toute cette chaleur. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font de toute cette chaleur.
Oui, nous l'avons déterminé, confirma-t-il, grâce à des lasers. Ça a été une véritable révélation, une illumination.
C'était un bon mot.
Oui.
Pas mal, pas mal.
Nous rîmes de bon cœur sous le regard courroucé de Strat. Dimitri se racla la gorge.
Oui. Nous avons focalisé un laser d'un kilowatt sur un seul astrophage. Bien sûr, il n'a pas chauffé.
mais au bout de 25 minutes, il s'est mis à réfléchir la lumière. Après un bon repas, notre petit astrophage était plein. Il avait consommé 1,5 mégajoules d'énergie lumineuse et n'en voulait pas plus. Ça faisait beaucoup, beaucoup d'énergie. Où la mettait-il ?
Où ? L'encourais-je. À ce stade, j'étais presque couché sur la table.
Nous avons pris des mesures avant et après l'expérience, bien sûr.
Bien sûr.
Eh bien, notre astrophage avait grossi de 17 nanogrammes. Vous comprenez ?
C'est impossible.
Ce poids supplémentaire est forcément le résultat d'une réaction avec l'air environnant ou quelque chose comme ça. Non. L'expérience a été conduite dans le vide.
Oh mon Dieu ! J'en avais le vertige. 17 nanogrammes fois 9 fois 10 puissance 16 égale 1,5 mégajoules. Je retombais lourdement sur ma chaise.
Nom de... Je veux dire, waouh ! Oui, c'est ce que je me suis dit aussi.
La conversion de l'énergie en masse.
Comme le grand Albert Einstein l'avait dit, E égale MC2.
La masse contient une quantité phénoménale d'énergie. Une centrale nucléaire moderne peut alimenter une ville entière avec 1 kilo d'uranium.
Oui, c'est bien cela.
La production entière d'un réacteur nucléaire pendant 1 an provient 1 kilogramme de masse. Apparemment, l'astrophage était capable d'accomplir ce prodige dans les 2 sens. Avec de la chaleur, il produisait de la masse, et puis lorsqu'il en avait besoin, il transformait cette masse en énergie et produisait la ligne de Petrova. Et il se servait de cette fréquence pour se propulser dans l'espace. L'astrophage était un médium de stockage énergétique parfait, mais aussi un moteur de vaisseau spatial parfait. L'évolution peut être incroyablement efficace quand on la laisse tranquille pendant 2 milliards d'années.
C'est complètement fou, dis-je en me massant le front.
Positivement fou. Vous croyez qu'ils produisent de l'antimatière en interne? Quelque chose comme ça?
Nous l'ignorons. En tout cas, l'astrophage gagne de la masse. Et quand il émet de la lumière pour se propulser, il perd de la masse en proportion égale.
C'est... Dimitri, j'aimerais passer un peu de temps avec vous. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous paierai une bière, ou une vodka, ou ce que vous voulez. Il y a forcément un club des officiers à bord.
Avec grand plaisir.
C'est toujours sympa de se faire de nouveaux copains, intervint Strat, mais il vous reste beaucoup de travail avant de pouvoir écumer les bars ensemble.
Moi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
J'attends de vous que vous conceviez et créiez notre usine à astrophage. Je clignais des paupières, puis je bondis sur mes pieds.
Vous allez construire un vaisseau fonctionnant aux astrophages?
Mes interlocuteurs hochèrent la tête de conserve.
Nom de nom. En termes de rendement, il n'y a pas meilleur carburant.
Combien nous en faudrait-il pour...
Oh, 2 millions de kilogrammes, c'est ça?
C'est pour ça que vous m'avez demandé combien de temps ça prendrait.
Oui, confirma Si. Un vaisseau de 100 000 kilogrammes aurait besoin de 2 millions de kilogrammes d'astrophages pour atteindre Tau Ceti. Grâce à vous, nous savons désormais comment activer les astrophages et générer de la poussée.
Je m'adossai à ma chaise, sortis mon téléphone de ma poche et ouvris l'appli calculatrice.
Il va falloir beaucoup d'énergie.
Plus d'énergie que le monde n'en a.
Quelque chose comme 10 puissance 23 joules.
Le plus gros des réacteurs nucléaires produit 8 gigawatts, ce qui signifie qu'il lui faudrait 2 millions d'années pour produire l'énergie dont nous aurions besoin.
Nous avons quelques idées sur la question, dit Strat. Votre boulot consiste à concevoir la couveuse d'astrophage. Commencez petit. Faites fonctionner un prototype.
D'accord.
Je n'ai pas beaucoup apprécié la tournée des armées du monde que vous m'avez offerte à l'aller. Donc, si ça ne vous fait rien, je préférerais rentrer à la maison en avion normal.
La classe éco m'ira tout à fait.
Vous êtes à la maison. Le pont hangar de ce porte-avions est vide. Faites-moi savoir de quoi vous avez besoin, y compris le personnel, et je m'occupe de tout.
Je me tournai vers les autres personnes présentes dans la salle de conférence. Si, Voight et Dimitri opinèrent du chef. C'était bien vrai. Strat ne se fichait pas de moi.
Mais pourquoi? Pourquoi Strat? Vous ne pouvez pas être normal comme tout le monde? J'ai bien compris que vous aviez besoin de moyens de transport militaire rapide, mais dans ce cas, pourquoi ne pas bosser dans une base aérienne comme le feraient les gens sensés?
Parce que dès que nous aurons produit des astrophages, nous mettrons en place quelques expériences. Si on activait accidentellement ne serait-ce que 2 kilos d'astrophages, il y aurait une explosion plus forte que celle de la plus puissante des bombes nucléaires jamais produites.
Tsar Bomba, précisa Dimitri. Fabriqué par mon pays. 50 mégatonnes. Boum.
Voilà pourquoi nous préférons rester au milieu de l'océan, où il n'y a aucune ville à raser, ajouta Strat.
Oh, fis-je.
Plus nous aurons besoin d'astrophages, plus nous nous éloignerons de toute civilisation. Bref, vous pouvez d'ores et déjà descendre dans le pont hangar. Des charpentiers y installent des bureaux et des chambres. Choisissez la vôtre.
C'est notre nouvelle vie, m'expliqua Dimitri. Bienvenue.